Hello, I'm Maisie Adam, and you're about to listen to a set performed by me at the Cavendish Comedy Club in London. Oh, I'm terrible with my money. I am. I'm absolutely terrible. Like I can't play Monopoly because it hits too close to home. Honestly, because what it is just going around London going, can't afford that, can't afford that. I've got nothing in the bank, and I can only dream of winning 50 quid in a beauty contest.
You might think you're terrible with money, but here's something. Did you know it's easier to save if you do it the day you're paid? Payday Save Day. Building a society of savers nationwide.
Vous écoutez
RMC. RMC.
On va pas prendre tout le football français sur le dos.
Putain, non, non. Et chaque fois, il y a une petite phrase. Assassin. C'est toujours assassin, assassin, assassin.
Si j'ai un petit mot à dire à Rosy, qui marque des buts et qui se la ferme un peu sur le banc. Je pensais que les saules pleureurs, c'était au bord de la rivière. Il y en a aussi dans les stades.
Faut arrêter de se prendre pour Calimero, ça suffit. Ok. Allez, ciao, bonne soirée.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Nicolas Jamain.
Oui, on a plus de Calimero ce soir dans l'after. Ludo
si,
Brignac.
Ouais,
je crois. Ludo Brignac boude parce que je l'ai coupé avant la pause.
Pas intéressant ce qu'il a dit.
Si, c'est intéressant.
Non,
Ludo Brignac, Jonathan McGardy, c'est l'after. On est là jusqu'à minuit. Ludo, je te rends la parole. Je sais que je prends un risque. Tu n'es pas forcément obligé de la prendre.
Mais si, je veux la prendre.
C'est pareil, parce que,
parce que c'est toi, je veux la prendre.
C'est sympa. Voilà. Je suis touché. Marseille, match nul à partout. Tu voulais parler notamment de cas individuels défaillants.
Ouais, au-delà de ça, je voulais souligner le courage surtout de Villas-Boas, qui est forcément, il entend ce que les gens disent sur Dimitri Payet, puisqu'on lui a posé à maintes reprises la question, et notamment pourquoi pas mettre Dimitri Payet en 4-2-3-1. Je trouve que ces garçons dégagent une sérénité et une confiance en lui, en ses choix, qu'il transmet aussi à ses joueurs. Et du coup, il n'est pas obtus non plus au point de se dire, bon, j'ai choisi de jouer comme ça. Tu vois, sur la dernière demi-heure, il a quand même tenté de mettre Payet à ce poste de numéro 10.
Il a été plus tranchant.
C'est lui qui décale, Radonjić sur l'égalisation.
Donc il faut qu'il soit dans l'équipe.
Après, la tactique, je t'ai dit, était plutôt intéressante dans le sens où Germain et Payet, quand ils étaient sur les côtés, rentraient à l'intérieur. Donc ils venaient monopoliser l'attention de la défense à 3 Montpellier-Rennes. Et donc, ils ouvraient les couloirs à Bounassar et à quand tu as la qualité de centre de Bounassar et d'Amavi, eh bien, il peut rien se passer. Et tu parles de Benedetto qui a été, qui s'est un peu sacrifié au milieu de cette défense à 3. Mais putain, quand je vois les appels qu'il fait sur les centres, je vois la qualité des centres au 3e, 4e, 5e poteau.
Il a fait 12 centres, Bounassar.
Mais il est là, le gros problème, c'est que
12 centres.
L'OM, avec deux latéraux de niveau un peu plus élevé.
Ah oui.
Mais putain, ça serait le jour et la nuit.
Et défensivement, on en parle aussi défensivement des deux. Parce que Jordan Amavi sur le but, c'est encore pour sa pomme. Je suis désolé, mais j'ai l'impression. À la louche, je pense que 80% des buts de l'Olympique de Marseille viennent d'erreurs d'Amavi et de Bounassar.
Autant je me suis dit. Incroyable. Je me suis dit contre Monaco.
Il avait été bon.
Une lumière dans la nuit. Je me suis dit, putain, il a été bon, ça va lui donner ça va lui donner de la confiance.
Pourquoi il avait été bon?
Mais comment tu peux te faire piquer ce ballon-là dans un match ô combien important contre Montpellier, avec une telle dilettante à 20 mètres de ton but? Mais c'est pas possible. Et après, prendre un jaune avec un tacle pas maîtrisé, c'est-à-dire qu'en 10 minutes, t'as quasiment condamné ton équipe.
Le problème, c'est, je pense que c'est un joueur qui a beaucoup de sautes de concentration. Contre Monaco, je l'avais trouvé plutôt correct parce que défensivement, il avait tenu la baraque parce qu'il était beaucoup moins monté, il avait beaucoup moins pris son couloir. Là, forcément, il a été amené à faire plus d'allers-retours et plus participer au jeu offensif. Et forcément, bah voilà, déconcentration, des alignements toujours un petit peu douteux, litigieux. Et franchement, comment tu peux m'expliquer qu'après 3 saisons, t'en es encore à avoir le seul Jordan Amavi pour occuper ce poste-là? Mais Zubizarreta, c'est criminel ce qu'il fait à cette équipe. C'est criminel.
Troisième point, il faudra peut-être à un moment ou un autre installer Valentin Rongier, parce que sa rentrée était très convaincante.
Oh là là, il perd un ballon dans les 40 derniers mètres.
Deuxième étrange.
Moi je l'ai pas trouvé.
Je trouve que techniquement, tu sens, il va se passer quelque chose avec lui. Il va se passer quelque chose avec
lui. Moi je l'ai pas trouvé.
Je te dis qu'il va se passer quelque chose avec lui. Ne sois pas si dur.
Non, j'attends de voir.
Il va falloir à un moment donné.
C'est un bon joueur.
Il faudra faire commencer pour voir un
Attends, juste un dernier truc quand même, ouais. Parce que franchement, alors je veux bien Morgan Sanson a été moins mauvais que d'habitude, mais je l'ai pas trouvé non plus trop
si, si, il a été bien.
Mais
il a
surtout été Maxime bien, Lopez, deuxième match de très haut niveau. Là j'ai ses stats, on peut leur faire dire ce qu'on veut, mais c'est quand même 105 passes, 90% de passes réussites, 4 passes clés, 8 duels gagnés, 2 tacles réussis.
C'est incroyable.
Non, parce que Maxime Lopez, c'est la tête de Turc, mais je suis désolé, ça sera pas le joueur qui ira.
Peut-être qu'il y avait les recrutements du Barça.
Mais arrêtez avec ça, on sait très bien qu'il ira jamais au Barça. On sait très bien qu'il ira jamais au Barça. Mais c'est un bon joueur de Ligue 1, et il a 20 ans, et avec une belle marge de progression. Donc c'est pas le Cador que certains veulent nous vendre, mais c'est quand même un bon joueur, donc on va se taper sur lui. Il tient la baraque au milieu du terrain aujourd'hui.
De Kevin Strott, parce que Marseille a mis énormément d'enthousiasme à attaquer. Ils se sont souvent retrouvés à 4, 5, 6 dans la surface de réparation. Et aux pertes de balles, Strootman n'a pas fait un grand match dans la construction du jeu,
mais il a fait
un bon match dans les équilibres, dans l'équilibre défensif.
Il gagne un duel à un moment côté droit, dans les pieds de Mollet, qui est hyper important.
Mais Pierre au 32-16.
Il a bien compensé.
Ludo, Pierre nous a appelé au 32-16, pendant de Montpellier quand même, qui a tenu bon au Vélodrome. Salut.
Bonsoir,
Pierre.
Les gars.
Montpellier-Rhin. Bon, tout à l'heure, on avait un Nicolas, supporter marseillais, qui a eu des mots très durs envers ton équipe, en disant clairement que c'est la négation du foot.
Mais il exagère.
Passons à Zakarian. Il y a beaucoup de réactions sur le hashtag RMC Live. Donc, Thomas Pinaroli qui nous dit tellement facile de taper sur Zakarian avec la frustration. Hein. Certes,
c'est pas bon,
il s'appuie sur sa défense, mais produit beaucoup de choses offensives. Le trio Mollet, messieurs. Le trio Mollet de Delors-Laborde est une des trois meilleures attaques de Ligue 1, et ce n'est pas sans l'impact du coach Michel Dzakarian. Pierre, qu'est-ce que tu penses, toi? Est-ce que Nicolas, tout à l'heure, était trop dur avec ton équipe?
Ah oui.
Bon, le supporter marseillais, déjà, bon, je voudrais lui dire qu'il devrait surtout analyser pourquoi son équipe n'a pas réussi à gagner. De critiquer la tactique de Dzakarian. Par contre, moi, voilà, je suis très déçu, très frustré ce soir, parce que je n'ai pas l'impression qu'on a mis tous les moyens possibles pour gagner ce match. Montpellier, en fait, cette saison, il y a deux visages. Il y a un super visage à domicile. On fait vraiment des très gros matchs.
En produisant du jeu.
Pardon ?
Je te disais, en produisant du jeu, contrairement à ce que Nicolas disait tout à l'heure. Oui.
Bien sûr, en produisant du jeu, on est par le match contre Nice, franchement, c'était un super match. Même contre Lyon, on a fait une grosse perf. Même quand on a perdu contre Rennes, mais on a eu, je sais plus, une vingtaine de tirs.
C'était un beau match.
On a eu des occasions et tout.
Le péno loupé aussi.
Mais à l'extérieur, au mieux, on joue une période bien, et la deuxième période, on recule complètement, comme ce soir en deuxième période. On recule jusque dans notre surface de réparation, on laisse le ballon aux Marseillais, on est toujours à 10 mètres derrière le porteur du ballon. Donc on peut pas jouer comme ça, c'est pas possible. À la limite, on aurait une mauvaise équipe, pourquoi pas. Mais là, on a largement les moyens de faire mieux. On a des super joueurs. Marseille, même ce soir, ils sont pas meilleurs que Nice, c'est pas vrai. Ensuite, à la limite, bon, si Berza qui veut jouer derrière, il veut attendre les Marseillais, bon, à la limite, c'est une stratégie, il veut jouer en contre, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, il faut de l'agressivité. Il faut presser les Marseillais, il faut récupérer des ballons, il faut lancer des contres. Là, c'est à chaque match, je vois Delors et Laborde, ils jouent des 2 contre 4, des 2 contre 5. Ils font que courir partout, mais j'ai mal pour eux. J'ai vraiment mal. Je me demande comment ils arrivent à tenir dans ces conditions.
Ludo.
Non, je rejoins Nicolas sur le fait sur le fait que Montpellier a su créer du jeu la saison dernière et cette saison. Ils n'en seraient pas là, ils n'auraient pas fini à la place à laquelle ils ont fini la saison dernière si ça n'avait pas été le cas. Ce qui a été notable ce soir, c'est qu'ils ont presque marqué trop tôt dans le match. Tu sais, et après,
Bounassar a marqué 3 fois.
Ils ont marqué 3 fois.
Et que ce deuxième but annulé Delors.
Tu dois pas annuler.
Il
a 2 cm de son épaule et de son pied qui dépasse.
Mais comme si à un moment donné, ils se sont dit on a fait presque le plus dur, ça va pas tourner pour nous ce soir. Ils n'ont pas été dans un grand soir, notamment sur cette deuxième période, et ils se sont dit, et je crois que Michel Dzakarian a compris que ça serait pas pour eux ce soir. Donc c'est pour ça qu'il a bétonné et qu'il a fait rentrer surtout des joueurs plutôt à vocation défensive qu'autre chose, parce que Montpellier n'était pas dans un grand soir, si ce n'est les 15-20 premières minutes, et que par miracle, t'as réussi à leur planter quand même un but, et que tu te dis, un point au Vélodrome, même en étant dégueulasse, on va prendre quand même. C'est tout. Mais ils sont pas coutumiers du fait, c'est pas vrai cette année Montpellier. Donc c'est un mauvais procès qu'on lui fait.
Panique, Montpellier 12e de Ligue 1, 8 points pour l'instant pour les hommes de Michel Dazacar. Merci Pierre d'avoir appelé le 32-16. Excellente soirée à toi. Messieurs, demain il y a le grand match, peut-être la première grosse affiche de la Ligue 1 ce début de saison. Olympique Lyonnais, Paris Saint-Germain. Ah oui, bah oui.
On a fini sur Marseille.
On a fait, attends, on va faire 25 minutes.
Dernier petit mot rapidos.
10 secondes, chrono.
L'arbitre, lamentable.
Ouais, Villas-Boas, ça pétait un plomb. Ouais,
gestion du match, lamentable. L'arbitre.
Mention spéciale à Jordan Ferry, qui encore une fois a fait dégénérer le match. Ce garçon a d'énormes qualités footballistiques. Mais permettez-moi de douter parfois de son fonctionnement.
Bah moi, j'adore.
Du fonctionnement de son cerveau. Mais
j'adore, parce que si tu l'as dans ton équipe, tu l'adores. Bah, s'il est contre toi, tu le détestes.
Pas ce soir. Je trouve qu'il a dénaturé une belle fin de match qui aurait pu apporter peut-être.
Il a pourri le match au moment où il sentait que Montpellier est en train de perdre pied. Moi, je trouve que c'est mal.
Demain, Olympique Lyonnais, Paris Saint-Germain. C'est juste fait prendre comme un enfant par la tête. 21h. Par tout l'état de ça.
Tiens, messieurs, le groupe parisien décimé par les absences. Hein. 7 absences. Mbappé, Icardi, Kerrer, Sarabia, Cavani, Draxler, Dagba absent, hécatombe. Neymar est bien là. Tourelle a intégré un gamin, 17 ans. Arnaud Kalimuendo, attaquant, formé au PSG, ouais, qui plante but sur but en ce début de saison, qui n'était pas pourtant forcément annoncé comme l'un des premiers à intégrer l'équipe première, mais bon, il est en pleine bonne croissance. C'est un peu inattendu. Il sera là dans le groupe. La compo probable du PSG signée Loïc Tanzi pour ce match à Lyon. Navas, évidemment. Bernat, Kimpembe, Thiago Silva, Meunier.
Ouais.
Marquinhos, Verratti, Gueye, Neymar, Di Maria, Choupo.
Bon, ça a quand même de la gueule.
Ah oui. On est pas loin de l'équipe qui a battu le Real quand même là.
Oui, mais ça a quand même de la gueule. Ils ont un effectif qui est tellement large, avec un banc qui est tellement profond, avec l'arrivée d'Icardi, de Sarabia et compagnie, que voilà, l'équipe que t'alignes, c'est quand même une équipe qui est ultra compétitive et qui peut aller à Lyon avec
sans
beaucoup
d'altitude.
Sans problème, non, on sait pas, parce que Lyon, c'est la qualité.
C'est la bête. Oui, mais Lyon, un mois sans victoire, messieurs. Hein.
Bah, justement, déjà, c'est du Vigneault. Et il n'y a pas de meilleur moment pour rebondir. Il n'y a pas de meilleur adversaire pour rebondir.
Lyon, c'est vrai qu'historiquement, a souvent gagné contre le Paris Saint-Germain. Je me rappelle encore, on parlait d'une frappe somptueuse de Jordan Ferry contre le PSG.
Si tu veux.
Juste, je pense que là, Silvinho, c'est quand même un petit peu exagéré de dire Silvinho sous pression, parce que, en fait, l'anomalie, c'était que les débuts soient si convaincants. Ouais. Il arrive, t'as un nouveau projet, tu changes beaucoup de choses dans ton club. Faut lui laisser un petit peu de temps. C'est vraiment un changement de paradigme pour l'Olympique Lyonnais. Tu rentres dans une nouvelle ère.
Le mot est lâché,
trop...
paradigme.
Non, mais c'est trop.
C'est un Paris?
Non, pas du tout. C'est juste l'emploi complet de la langue française et de ses nombreuses possibilités. Non, mais c'est juste, c'est tout à fait normal qu'ils mettent un peu de temps à se mettre en place. Après, effectivement, si tu te prends une rousse contre le PSG, ça peut être un petit caillou dans la chaussure quand même.
Ah bah clairement. Il est clairement déjà un tournant, Silvinho.
Je suis d'accord avec toi. On va pas lui en vouloir de perdre 3-2, 3-1 demain soir.
Il faut montrer quelque chose. C'est le compte
du. Il faut montrer quelque chose.
Non, je pense que c'est un PSG qui est fortement diminué. C'est le moment pour Lyon opportun de pouvoir rebondir. C'est vrai qu'une défaite, ça ferait tâche, parce que ça accentue la période de non-victoire, et que il va y avoir tout doucement une pression qui va s'accentuer autour de Silvinho. Elle a déjà commencé d'ailleurs, mais il faut au moins que dans l'état d'esprit, voilà, il peut y avoir que les choses se mettent en place sur le plan du jeu, sur le plan de beaucoup de choses, on peut le comprendre. Maintenant, sur l'état d'esprit, Lyon doit être irréprochable sur le match de dimanche. Sinon, cela voudra dire qu'il a, peut-être comme l'ancien entraîneur, il n'arrive pas à sublimer ses joueurs et qu'il a peut-être pas la main sur son vestiaire. Donc c'est un match déjà important pour lui.
Ils ont besoin d'une victoire fondatrice, parce que même si les débuts semblaient être paradisiaques, on n'avait que du bien à dire et à analyser de l'Olympique Lyonnais. Là, on sent que les joueurs sont quand même un petit peu crispés. Il y a des choix qui sont faits. J'ai encore en tête la sortie de Dembélé, je sais plus sur quel match, il y a 2-3 journées, qui sort sans serrer la main de l'entraîneur, assez énervé. Donc une victoire est impérative, parce que le groupe peut bien vivre que si tu gagnes. Après, attention, Lyon, c'est une équipe qui se sublime dans les grands matchs face à des gros adversaires, donc c'est alléchant.
Même au-delà d'une victoire, Jonathan, je pense qu'on attend du répondant.
Oui, voilà, du caractère.
Il faut du caractère et du répondant. Après, le Paris Saint-Germain reste le Paris Saint-Germain. Les supporters savent ce qu'il en est. Mais demain, il faut montrer autre chose que sur les 3 derniers matchs, et notamment sur le dernier match de Ligue des Champions.
Côté parisien, j'ai envie de revoir Idrissa Gueye également. Ouais. Voir s'il confirme vraiment ce qu'il a fait mercredi soir face au Real Madrid. Tu peux nous faire du Rambo encore, imitation Rambo ?
C'est pas ma guerre.
Ok, donc ça passe pas du tout. Fier d'être Marseillais, soir chez RMC Live, dit que c'est nul.
Bah, il a raison, c'est nul.
Ton imitation de Rambo, on aurait plus dit Patrick Bruel que Stallone.
Mais il a raison, c'est il ça. A raison.
Casser la voix, tu sais faire ?
Non.
Voilà. On revient dans un instant avec le séisme en Espagne. La défaite du FC Barcelone face à Grenade, 2-0. Fred Hermel nous attend, il est déjà connecté. Comme toutes les drôles de dames, le Barça, battu malgré l'entrée en jeu de Messi en deuxième période. Le Barça, hein, qui a un Barça record quasiment, qui a déjà perdu deux fois en l'espace de six matchs en Liga et qui perd des points. Grenade, leader. Surprise de Liga, incroyable. On en parle avec Fred Hermel, à tout de suite.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot, Nicolas Jamain.
Jonathan Bacardi, Ludovico Bragnac, c'est l'After, on est ensemble jusqu'à minuit. Place désormais au drôle de dame. On va partir en Italie.
On va partir pas notre débat là.
En Allemagne,
avait, pendant la pub.
C'est un débat très intéressant qu'il faudra mener un jour, effectivement, sur de moins en moins de nudité autorisée dans les vestiaires de football. Ça avait fait un dossier dans l'équipe magazine, il y a quelques semaines. Très intéressant. On en parlera un jour, effectivement, c'était le débat. Donc, messieurs, avant d'accueillir Simone Rovera, avant d'accueillir Paulo Breitner et Julien Laurence pour évoquer notamment le carton de City 8-0 aujourd'hui face à Watford. D'abord, une explosion, un séisme. Grenade a battu le FC Barcelone. Salut Fred Hermel.
Ah ben c'est ça les ligas compétitives.
Hein. Hola chicos. Alors quand ça arrive en France, quand je sais pas quand Amiens est troisième de Ligue 1 après 4 journées, on dit mais qu'est-ce que c'est pauvre la Ligue 1 pour qu'Amiens soit en tête. Et quand Grenade est en tête de la Ligue 1, parce que c'est le cas actuellement.
Sauf que Fred
c'est
est un
Liga
bon,
compétitive.
Sauf que Fred est un mot commercial.
C'est un bon verbe.
C'est un excellent verbe.
Vendre. Ah ben je n'en doute pas.
Fred, donc oui, bah c'est un séisme. On est d'accord.
Bah, c'est une grande. Bah,
2-0 Grenade ce soir.
Le problème pour le Barça, c'est pas de perdre 2-0 ce soir à Grenade, c'est que le Barça a perdu 8 points sur 15 possibles depuis le début de la saison.
Énorme.
Tant t'imagines.
Ça fait combien de temps, Fred?
11 ans. 11 ans.
25 ans. Ça fait exactement 25 ans que le Barça, au bout de 5 journées, on était là.
Et qu'est-ce qui cloche, Fred?
Tout.
Messi a joué, non, pourtant. Il est entré, Messi, là.
Ouais, non, mais Messi, il a 6 entraînements dans les jambes cette saison. Il n'a pas fait la pré-saison, il était blessé. Enfin, la pré-saison. L'avant-saison, comme on dit en français. Et donc
pré-temporada.
Messi, il faut du temps. Mais il s'est blessé au moment où bah, enfin, tu sais, Ludo, le travail de l'été, hyper ah bah important.
Tu capitalises toute la saison là-dessus.
Et là, il a pas pu faire, il s'est blessé.
En plus, il avait la Copa América dans les pattes.
Voilà, donc il faut pas. Alors, et d'ailleurs, il a joué en deuxième partie. Et il est rentré vraiment à la 46e après le repos. Mais il a pas le coup de rein. Enfin, et comme Grenade était une équipe vraiment qui est portée, qui avait déjà 2 victoires cette saison, qui est portée. Ça aussi, il y a un effet. Un peu spécial d'un club qui vient de monter. Vous le savez, quand on monte, on vit pendant quelques semaines
c'est
encore.
C'est un promu, hein, Grenade.
Ben c'est pour ça.
Bien dire.
Ouais, voilà, comme oui, t'as raison de le préciser, parce que ils sont encore sur la dynamique de la montée de l'an dernier. Donc il y a quelque chose de spécial qui se passe, mais le Barça est pas bien. Griezmann n'a pas trouvé sa place ce soir. Suarez, il est pas bien. Et puis au milieu de terrain, il n'arrête pas de changer son milieu de terrain.
Frankie de Jong, Sergio Roberto et Rakitic ce soir.
De Jong dans la défense.
C'est premier match comme titulaire cette saison. Rakitic, il fait des essais, ça marche pas. Et puis en défense, c'est vrai que Piqué était très nerveux. Il aurait pu être expulsé. L'anglais a fait un mauvais match. Alba est blessé. Il s'est blessé l'autre jour à
Firpo Junior, c'est ça?
À Dortmund. Oui, enfin lui, il a fait.
C'est qui lui?
Bah, l'ancien du Bétis.
Oui, mais et il est sorti lui.
À la mi-temps. Oui,
à la mi-temps. Et
il est meilleur qu'à ma vie ou pas?
Je sais pas.
Attention, il y a match. Parce qu'à ma vie, c'est quand même dur.
Non, attends, je vais te faire l'équipe quand même. Ter Stegen dans le but, Firpo Junior à gauche, l'anglais Piqué dans l'axe, Semedo, Sergio Roberto, Frankie de Jong, Rakitic, Griezmann, Suarez, Perez, Sayol. Dido?
Non, je voulais savoir si, forcément, l'analyse de Fred sur Valverde, est-ce que c'est pour toi le responsable et est-il menacé?
Bah, il était déjà menacé en fin de saison dernière. La majorité des dirigeants, des membres du conseil d'administration voulaient le virer, et c'est le président Bartomeu qui a tenu bon. Parce qu'il faut se souvenir que l'an dernier, bon, il y a eu cette claque prise à Liverpool, et puis la défaite en finale de la Coupe du Roi face à Valence. Donc, il a été à deux doigts de partir. Là, on peut dire qu'il est pas bien. Il n'est pas dans une situation confortable.
Alors que c'est un bon entraîneur, Fred.
Mais bien sûr que c'est un bon entraîneur. Moi, je l'aime beaucoup. Mais il y a quelque chose qui
ne maîtrise pas grand-chose là.
Mais oui, j'ai l'impression, c'est bizarre.
Est-ce que Fred, est-ce que ça t'est déjà arrivé que le Barça et le Real soit en difficulté aussi rapidement et que ces deux entraîneurs soient déjà menacés si tôt dans la saison.
Ouais, enfin après, je pense pas que Zidane soit menacé et je pense pas que Valverde soit menacé. Valverde, il porte le fait qu'il a failli partir déjà au mois de juin. Tu vois, donc ça vient de plus loin. Mais il va pas se revirer ce soir, ce serait très étonnant. Mais il y a une sorte de... Même physiquement, ils sont pas bien, quoi. Voilà, donc après... Moi, les équipes qui sont en pleine bourre au mois de septembre, je veux jouer au mois d'avril.
Ouais, t'as raison.
On va y aller tout doucement. Il y a une mauvaise passe à faire là.
Le Real peut être leader en plus s'il gagne là.
Mais regardez le ridicule du football et l'extraordinaire du football en même temps. C'est-à-dire que tout le monde crache sur le Real, ça va mal.
S'ils gagnent, ils sont leaders.
Ils sont leaders avec 4 points d'avance sur le Barça et 2 points sur l'Atlético. Tu vois, donc ça va très vite en 2 jours le football. Puisque l'Atlético fait match nul.
Un mauvais 0-0 contre Celta Vigo à domicile. Aussi, quoi. Ben tout le monde piétine finalement. Ouais.
Oui, mais... tout le monde piétine. Et puis après, la Ligue des Champions, bah, ça pèse dans les jambes, on le sait. Donc,
bien sûr, t'as raison là-dessus.
Là aussi. Et puis Séville, ils ont joué en Azerbaïdjan jeudi soir en Ligue Europa, ils ont gagné, mais enfin c'est un voyage. Je crois que c'est le plus long voyage pour un club espagnol.
Je crois qu'ils ont l'effectif pour faire tourner quand même. Ils ont une profondeur de banc.
Oui, il avait fait tourner là-bas, mais le voyage, je sais plus quoi, c'est 6 heures d'avion, un truc comme ça, ou 7 heures d'avion. Enfin c'est ça aussi, ça sera dans les jambes. Donc voilà, quand tu joues l'Europe, mais voilà. Après, le Barça a des problèmes depuis un long moment. Sauf que Messi et Ter Stegen en général, maquillent les résultats.
C'est ça. Ouais.
Parce que sauf que là, Ter Stegen ce soir, il a pas arrêté. Il y a eu un penalty contre le Barça. Il a pas arrêté. Comme c'était le cas à Dortmund l'autre soir, il a pas été extraordinaire, il a même failli faire une couille, mais incroyable pour lui.
Surveillez votre langage, monsieur Hermel, s'il vous plaît.
Bah, une couille, c'est pas sale. Hein.
Certaines sont propres et parées. Griezmann, oui, Fred, tu l'as trouvé comment ce soir?
Perdu.
Mais ouais, à part son match là où il fait la célébration avec les paillettes, est-ce qu'il a fait d'autres bons matchs avec le FC Barcelone?
C'est celui-là, le seul, c'est contre le Betis, eh ouais, le seul match.
Mais quand tu dis perdu, Fred, dis-nous concrètement, c'est-à-dire quoi, sur le terrain, dans son positionnement.
Il est à gauche, période. Ouais. Après, avec les changements, il est à droite et il trouve pas sa place. Il comprend pas le jeu des autres. Je pense que il y a le gros problème de Griezmann, c'est qu'il vient d'un style de jeu qui est quelque part à l'opposé de la philosophie du Barça. Quand tu viens de l'Atlético, de Simeone, avec le corset défensif, etc., et que tu arrives au Barça, bon, il faut s'adapter à un nouveau style de jeu.
Rappelez-vous du Turc, là. Comment il s'appelait, qui avait atterri au Barça?
Arda Turan,
qui avait eu toutes les difficultés du monde, alors que c'était un bon joueur.
Mais en fait, Arda Turan, vous savez pourquoi il était au Barça? Parce qu'il voulait pas courir. Il dit, bah, au Barça, c'est...
Oui, c'est bon, on a la balle.
Griezmann, sur un côté, Fred, c'est quand même de la confiture donnée au cochon, quoi.
C'est son premier poste à la Real Sociedad.
Ouais, mais là où il s'est vraiment épanoui à l'Atlético, c'est dans l'axe.
Oui, c'est dans l'axe et souvent il aime bien jouer avec un mec derrière le vide en numéro 9.
Est-ce qu'il a fait tourner Valverde ce soir? Parce que je regarde le banc.
Mais le problème, c'est
Busquets,
que.
Busquets, Arthur, Vidal.
On sait pas quel est l'équipe type de Valverde. Ouais.
Au milieu,
pas dire qu'il fait tourner, puisqu'il fait tourner depuis le début de la saison, parce qu'il cherche encore.
Donc ça veut dire quand De Jong est là, Busquets ne joue plus, c'est ça?
Non, si, les deux ont joué ensemble beaucoup.
Ils ont joué ensemble à Dortmund, mais ça s'est pas bien passé. Donc Rakitic,
il voulait absolument se séparer titulaire.
C'est le premier de la saison quand même. Hein, donc,
Fred, demain le Real. On va revoir le Real après sa claque subie au Parc des Princes. 3-0. Ouais. Tu as dit tout à l'heure, c'est intéressant que pour toi, Zidane n'est pas menacé. Il était en conférence de presse, tu l'as rencontré d'ailleurs. Zidane.
Bah oui, je suis là pour ça.
Hein. Oui, non, mais t'es là pour ça évidemment. Tu nous as envoyé ça. On va l'écouter, Zidane. Tu nous as envoyé ça déclat. C'est demain soir à 21h. Et effectivement, ironie du sort, le Real peut être leader demain soir. Hein. En cas de victoire sur la pelouse de Séville. Mais il y a quand même une certaine pression sur ce match, Fred.
Oui, bien sûr. Bah, bien sûr, c'est énorme.
Quand tu prends 3-0 en Ligue des Champions.
Mais c'est la plus grosse défaite en Ligue des Champions de Zidane sur le banc du Real. Donc, bien entendu, il y a une pression. Donc, moi, je lui ai posé la question. Maintenant, voilà, on connaît ta réaction juste après la défaite à Paris. Mais là, tu as passé 3 jours avec tes joueurs. Tu as dormi, tu as réfléchi, tu as revu le match. Est-ce que tu es inquiet? On va écouter Zidane.
On l'écoute.
De toute façon, je serai jamais inquiet. Maintenant, en fait, c'est le prochain match qui compte. Et le prochain match, c'est celui de demain. Le prochain match, c'est celui qu'il faut qu'on aille gagner. Parce que le reste, de toute façon, ça sera tout le temps comme ça. C'est-à-dire que même si on gagne 2 matchs d'affilée, même si on gagne demain, le match d'après, en fait, on redira la même chose. Donc, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est parce que, c'est faire de l'analyse de ce qui s'est passé, essayer de s'améliorer et avoir un match pour changer la donne.
Attends, il est vraiment pas inquiet. Il avait la tête d'un homme inquiet mercredi soir.
Est-ce qu'il dit plus de choses mercredi soir?
Oui, mais c'est la raison pour laquelle je lui ai posé la question. Bah là, maintenant, t'as dormi, t'as réfléchi. Voilà, parce que quand tu te prends 3-0 en Ligue des Champions, oh, c'est évident que t'es pas bien. Ta première réaction, c'est de tristesse et de voire de désespoir. Sauf que là, voilà, ils ont parlé. Puis demain, il y a le retour de Ramos, quoi. Et ça change tout, quoi. Ça change tout. Parce que Ramos, c'est le même s'il y a plusieurs leaders techniques dans cette équipe, à commencer par Karim Benzema, le leader mental, c'est Ramos. Je sais pas si c'est avec vous, je le disais, ou c'était en début de semaine. Lundi, j'ai pu traîner un peu mes guêtres du côté du centre d'entraînement, et un joueur avec qui je m'entends bien m'a dit, attention à Paris, on n'a pas Ramos, quoi. Eh ouais, et ça s'est senti hein, dans le fighting spirit comme disent les Irlandais. Hein,
ouais, exactement.
Tu vois, ben il y avait pas ça. Et Ramos, en plus à Séville où il se fait siffler parce qu'il a été formé à Séville et qu'il est très mal accueilli là-bas. Je pense que c'est au courage que ça peut se régler. Mais bien entendu que le Real ne joue pas bien. Bien entendu qu'il y a un vrai gros problème au milieu de terrain parce que Zidane n'a pas eu le joueur qu'il voulait, qui était la pierre angulaire de son projet, de son nouveau projet sportif,
Pogba.
Qui s'appelle Pogba. Donc voilà. Mais tu sais, le malheur des uns fait le bonheur des autres. L'Atlético qui fait match aujourd'hui, le Barça qui perd, bah, naturellement, sans rien faire, la situation de Zidane, Fred, elle est un petit peu moins mauvaise qu'il y a deux jours.
Fred, de toute manière, faut être très clair sur le Real Madrid. Il y a eu beaucoup d'achats, beaucoup de recrues qui, pour l'instant, ne sont pas vraiment intégrées totalement à l'image d'Eden Hazard. Il y a eu du retard à l'allumage, mais quand toutes les recrues se seront adaptées au Real Madrid, ça risque quand même de mieux tourner.
Ou pas. Fred,
Hazard, là, il y a encore quelques kilos de trop. Il n'a pas le rythme. Mais Hazard, incroyable. Il a des meilleurs joueurs du monde. Enfin, heureusement.
Mais Fred, mais c'est incroyable que ça fait quoi? Ça fait un mois qu'il est arrivé à Madrid. Il est encore des kilos de trop.
Il a été blessé en plus. Il a été blessé pendant 3 semaines, donc ça aide pas à se préparer.
Mais on est d'accord. Je serais curieux de savoir, tu sais que j'ai une amitié particulière pour Grégory Dupont, qui est devenu le nouveau préparateur physique du club.
On l'a présenté lundi. On n'a même pas parlé ensemble.
C'est un amour.
C'est un super mec.
Ouais, c'est un super mec. Ouais. Et avec beaucoup d'humilité et toujours à l'écho. Enfin, un super mec. Qu'est-ce qu'on en dit là-bas? Est-ce qu'on parle de lui ou?
Bah, c'est-à-dire qu'il y a eu des petites critiques parce qu'il y a eu des blessures musculaires. Mais il y a des blessures musculaires à Paris, il y a des blessures musculaires au Barça. Le jour où les grands clubs comprendront que l'été, il faut aller en Autriche ou en Suisse au frais et travailler et pas faire des tournées à 40 degrés avec 80% d'humidité aux États-Unis en Asie, eh ben il y aura moins de blessures musculaires.
Non, mais ça va pas de l'argent, ça, Fred.
Mais dans ce cas-là, il faut pas se plaindre quand il y a des blessures musculaires.
Exactement.
Donc, Grégory Dupont a été un peu critiqué en disant oui, c'est quoi la préparation physique, etc. Mais bon, vous savez ça mieux que moi. Enfin, toi qui as joué au foot, c'est pas maintenant que ça compte. Enfin, un joueur est toujours fragile en début.
Ouais, mais
c'est au printemps que ça se voit le niveau.
Ouais, mais tu sais quand même que ils l'ont dit clairement cette année, ils veulent prendre la Liga. Donc le fait que le Barça soit malade, t'as une occasion quasi inespérée de sauter sur l'occasion pour déjà grappiller tout de suite des points. Donc le début de saison est donc du coup très important.
Ça peut faire 4 points d'avance. 4 points d'avance, ça te permet de chuter à Barcelone le 23 octobre dans le derby, dans le Classico, tu vois. Donc c'est. Ben, en fait, on va voir demain, parce que peut-être que demain soir, je vous dirais, ben non, le Real a perdu 3-0. Mais la situation ce soir, elle est un petit peu moins mauvaise. Mais.
Fred, demain, aussi bien pour le Real perd. Si le Real perd demain, Fred. Comment ça peut évoluer cette situation? Parce qu'il y a une énorme pression médiatique, populaire également, autour de Zidane.
Mais il n'y aura pas de problème pour Zidane.
Aucun problème demain en cas de défaite à Séville.
Non.
Ok. Bon.
Mais attendez. Enfin, Florentino Pérez a appelé au secours le 11 mars dernier.
Oui, mais bon.
C'est pas pour le virer. Non, mais c'est pas. Enfin, je veux dire, il faudrait qu'il perde à Séville. Il faudrait qu'il perde contre l'Atlético. Il faudrait qu'il perde à domicile contre Bruges. Enfin voilà, il faut
pour l'instant immunité.
Comment, pardon?
Pour l'instant immunité.
Ben c'est même pas une question d'immunité. C'est une question de bon sens. On ne vire pas un entraîneur comme Zidane, qu'on a appelé à la rescousse, quasiment comme un service personnel.
Il a jusqu'à l'hiver au moins.
Au mois de mars, oui, voilà.
Et même jusqu'à la fin de la saison, je pense. Ça m'étonnerait qu'il le vienne en cours de saison.
Enfin, après, il faudrait vraiment que ce soit catastrophique.
Oui, bah oui.
Alors, ça a été catastrophique à Paris, mais il faudrait que ce soit catastrophique dans toute une série de matchs.
Ouais.
C'est ça qu'il faudrait pour dire, voilà, dans ce cas-là. Mais aujourd'hui, il y a une question qui a été posée en espagnol à Zizou, en disant, mais est-ce que tu sens l'appui de tes dirigeants? Il dit, bah, bien sûr, je sens l'appui de mes dirigeants. Enfin, mon club, bien sûr, il n'y a pas de problème. Et le jour, il me dit, mais de toute façon, le jour où je l'aurais pu, je partirais, hein.
Bien sûr.
Voilà, donc, Après, il y a toujours des gens qui disent, qui parlent dans son dos, mais ça, c'est okay. Tous les clubs. Vous savez, les dirigeants, même quand, quand leur équipe elle gagne 5-0, il y en a toujours un pour trouver quelque chose à redire contre l'entraîneur. Vous savez comment sont les dirigeants. Mais ils pensent souvent connaître mieux le foot que les footballeurs et les entraîneurs. Donc
c'est quoi? C'est une légende, ça, que Pérez devrait débourser 80 millions d'euros s'il se séparait Zidane?
C'est du n'importe quoi.
C'est du grand n'importe quoi. On est d'accord.
Qui t'a dit ça?
Ça sort un peu partout, là. Mais c'est.
Mais attends, tu me laisses 30 secondes pour parler de ça? 30 secondes. Zinedine Zidane, en 2006, quand il décide d'arrêter le football, il a dans son contrat une clause logique, parce qu'il avait encore un an de contrat, qui dit même si tu t'arrêtes, tu as automatiquement droit à 12 millions d'euros bruts, 6 millions nets. C'était, il allait le toucher. Et Zidane dit, ben, c'est moi qui pars, donc je ne prends pas cet argent. Ah. Et ça, c'est facile à vérifier parce que les comptes du Real sont publics, puisque c'est une association, etc. Voilà. Quand Zidane signe son contrat d'entraîneur du Real Madrid, il ne parle même pas d'argent. C'est-à-dire que Florentino l'appelle et il ne négocie même pas le salaire. C'est deux jours après, au moment où il faut faire le contrat, que le directeur général dit bon, tu vois, Zidane gagnait trois fois moins que Mourinho, deux fois et demi de moins que Ancelotti et deux fois et demi de moins que Benitez quand il a pris le Real. Si Zidane aimait l'argent, ça se saurait.
Ok. T'aimes l'argent, Fred?
Ah, moi, oui.
Moi, c'est net.
Non, j'aime l'argent.
Et comme Fred Armel n'est pas une association, ses comptes ne sont pas transparents. Donc, on ne sait pas comment.
tout ça pour dire quoi? C'est que jamais Zidane ne ferait mettre dans son contrat une clause qui dit si vous me virez 80 millions. Mais c'est tellement n'importe quoi.
Et en plus, avec le livre qui vient de sortir, les Tintines, elles vont tomber, je te le dis. Il va falloir aller voir.
T'as raison.
C'est pas encore sorti.
Merci, Fred.
Bravo pour ton livre en tout cas, Fred.
Ouais, excellent livre.
Merci.
Ciao, ciao.
Que j'ai pas encore lu d'ailleurs, mais que je vais lire.
Ciao, Fred.
Bonne soirée, Fred. L'Italie, la Serie A, évidemment. Grosse journée en Serie A. Simone Rovira est avec nous. Salut, Simone.
Ciao, bonsoir.
Est-ce que tu aimes l'argent, Simone?
Bah, bien sûr.
J'adore les gars. Ils sont bons.
Pas autant que Fred Hermel, mais bon.
Gros après-midi en Serie A. On va s'intéresser à deux matchs, notamment au derby milanais. Le Milan AC qui recevait l'Inter. Bah, ton Inter, on va pas le cacher, hein, Simone. Hein. Qui est leader encore de Serie A. Quatrième match, quatrième victoire. Et là, l'histoire est marrante parce que l'Inter gagne 2-0 à San Siro face au Milan sur des buts de Brozovic et Lukaku, on en parlait hier. Ouais.
Ah oui, il y a tous les supporters de l'Inter qui disent on devrait faire les discuter plus longuement chaque match, même après les matchs, une des commentateurs sur la chaîne italienne qui transmettait les matchs, un des consultants, déjà Stankovic, disait bah vous voyez ça, c'est bien de se disputer dans le vestiaire si ça termine comme ça. La personne plus heureuse, c'est sûrement Antonio Conte qui a parlé même de petites faux pas qu'il y a eu cette semaine en Ligue des Champions. Il a dit ça nous donne plus envie, ça nous donner plus d'envie. Donc, une Inter qui a faim, qui a montré d'avoir pour moi une différence, des niveaux de qualité des jeux et des projets en rapport au Milan. Aujourd'hui, Milan est deux années derrière l'Inter à niveau de joueurs prêts pour le plus haut niveau. Je ne dis pas que le projet n'est pas bon du Milan, mais c'est un projet en devenir. L'Inter, avec les mercato qu'il a eu cet été, avec des joueurs comme Lukaku, qui marque un but pour moi extraordinaire, parce que oui, ça semble simple, un but de la tête, mais il prend de l'anticipation sur Romagnoli, pas n'importe qui, un des meilleurs jeunes défenseurs italiens, avec une force physique, une timing et une rotation de la tête, vraiment très très belle, très très belle action de Lukaku sur ses deuxièmes buts de l'Inter. Mais globalement, pour moi, il y a eu équilibre pour 20 minutes. L'Inter est totalement supérieur. Deux buts, trois poteaux, un poteau aussi pour Milan. C'était un derby plutôt spectaculaire en deuxième mi-temps, un peu tendu sur les premières 15 minutes. Et après, tout a changé avec le but de Brozovic. Un but un peu étrange parce qu'il y a une déviation sur la frappe de Brozovic et Lautaro est plutôt sur la trajectoire. Donc, même une petite embrouille avec le VAR avant qu'il soit validé. Mais globalement, il y avait vraiment un écart de niveau énorme ce soir entre Milan et Inter, et les 2-0, c'est même un résultat un peu court pour l'Inter qui, surtout après le deuxième but, a eu des occasions pour marquer les troisièmes plusieurs fois. Donc, bonne victoire de l'Inter, mais la saison est encore très longue. Personne parle du titre. Personne veut parler du titre. On a demandé à Lukaku après le match la lutte pour le titre. Lui, il a dit, ah, je parle pas de ça. Parce que on sait très bien que plusieurs fois, même avec Spalletti, avec Mancini dans les saisons avant, on avait vu l'Inter bien commencer. 4 victoires, 5 victoires, première jusqu'à décembre. Et après, tout s'est écroulé avec Antonio Conte. Je sais pas si ça va arriver parce que cette équipe, pour moi, a déjà les marques de Conte. Et avec Conte, c'est difficile.
Ah, tu sens vraiment déjà la patte Conte dans le jeu, l'Inter?
Un peu dans les jeux, mais énormément dans les caractères.
Dans le caractère.
C'est une équipe qui tout le voit. Après, dans les jeux, oui, parce que il y a des changements de côté rapides, il y a des percussions, il y a les milieux qui participent énormément au jeu. Mais cet été, c'est arrivé. Stéphane Ancien, c'est encore plutôt bon ce soir, même si pas bon comme dans les premiers matchs de la saison. Et Barella qui petit à petit est en train de s'intégrer. Donc tu prends deux joueurs d'énorme qualité, d'énorme dynamicité, dynamisme, et tu les vois sur le terrain.
Simonet, la Juve s'est imposée également, mais ça a été compliqué face à Vérone. On en parlait hier, hein, on teasait le match, toujours sans Rabiot, on est d'accord, hein, pas une minute.
Mais pour faire un discours plus global, la même situation, non par derby, mais la même situation, c'est pour Emre Can est même dehors de la liste Champions League, lui aussi 0 minute, 30 minutes en saison pour Emre Can, 27 pour Rabiot. Par contre, pour les choses un peu plus positives, mais parce qu'il y a quand même des choses intéressantes, une titularisation pour Ramsey qui marque un but. La Juve, oui, difficile face à Vérone qui joue bien, qui met en difficulté la Juve.
Un but exceptionnel de Vérone.
Un but penalty. À moitié gag.
D'abord, il y a penalty. Voilà.
Penalty de Di Carmine, poteau. Les premières qui arrivent, c'est Lazovic. La porte vide, la porte libre. Barre transversale. Et juste derrière, Lazovic met un but à 26. Lazovic, Michael Veloso, met un but à 25, 6, 26 mètres. Magnifique. Qui trompe Buffon, Gigi Buffon. Meilleur sur le terrain, pour moi, de loin. Ah. Extraordinaire, fait deux arrêts dont une à la fin qui sauve le match et sauve pour moi un peu plus que le match, parce qu'imaginez si la Juve faisait match nul à domicile face à Vérone avec une équipe qui a été pas très similaire, parce qu'il y a eu cinq changements au début, mais qui a fini d'une façon très similaire à celle de l'Atletico, parce que les trois joueurs qui a fait rentrer Sarri en deuxième mi-temps, c'est donc Pjanic, Khedira et Higuain. Donc, même quand il ne les fait pas jouer titulaire, ses soldats, ses titulaires, il arrive à la fin du match.
On l'a dit, hein, on le connaît, il tourne pas beaucoup, hein, il reste avec 14-15 joueurs, hein, c'est toujours ça.
Bien sûr, j'ai demandé à Sarri, hein, à la fin de la conférence de presse, qu'est-ce que doit penser Adrien Rabiot quand il voit Matuidi qui fait un très très bon match, et à les 93e minute, 82e, il se fait deux occasions, dont une provoque les cartons rouges pour Vérone et qui met un terme, on peut dire, à l'offensive de Vérone pour chercher les légalisations. Et simplement, Maurizio Sarri m'a répondu, Matuidi, c'est un grand joueur, il fait un énorme début de saison. Et donc, on doit l'utiliser, on doit utiliser ça. Et Rabiot doit penser qu'il doit être heureux si un joueur comme Matuidi fait un gros début de saison. Peut-être, sûrement, il aura sa chance plus tard. Aujourd'hui, Matuidi est en super forme, c'est un super joueur, donc c'est normal qu'on continue à l'utiliser.
Ok, Ludo. Il doit se dire, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été moins con?
Surtout ça,
léger, et j'aurais peut-être dû m'imposer au Paris.
Dybala, Cristiano, ça commence à prendre forme, la complicité. Ouais.
Très court, Simonet, il faut qu'on y aille.
Bah, alors, sur certaines phases, oui. Après, Dybala, moi, je veux que s'il joue avant-centre, soit dangereux aussi dans les 20 derniers mètres. Donc, un peu plus, on verra. C'est un premier match. Moi, il faut voir dans la continuité. Attention, parce que mardi, déplacement à Brescia et premier match de la saison pour Mario Balotelli, qui a purgé ses 4 matchs de suspension qu'il avait pris la saison dernière avec Marseille. Donc voilà.
Excellent soir à toi. Bonne journée demain. Bon dimanche en famille avec ta petite, la famille, et puis Gonzalo, ton voisin. Dans un instant, le carton de Manchester City face à Watford, 8-0 avec un record, hein, 5-0 en 18 minutes de jeu. Ouais. Avec un triplé d'un joueur que j'adore moi personnellement, Bernardo Silva, exceptionnel. Julien Laurence sera avec nous également. Paulo Breitner pour parler d'un grand Robert Lewandowski, l'ami de Ludovic Obraniak en sélection polonaise. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot. Nicolas Jamain
et Ludovic Obraniak. Et Jonathan Macardy, 23h45. Qu'est-ce qui t'arrive?
Non, mais je suis content.
Pourquoi tu mets toujours des t-shirts XS quand tu en as l'after le week-end?
Tu aimes déjà.
Ludo, il met du XL, tu vois.
Ça s'est rétréci au lavage. Petite cafouillage.
Vous pouvez voir sur RMC Sport News d'ailleurs.
Cafouillage.
L'Angleterre, la première ligue avec le premier carton, la première rouste de la saison. Salut Julien Laurence.
Salut à tous.
Salut Jules. On avait parlé de City la semaine dernière qui avait été battu. Et on va parler de City aujourd'hui qui a mis 8-0 à Watford. Triplé de Bernardo Silva, début de Agüero, Mahrez, Kevin De Bruyne, Otamendi, David Silva, avec un record dans ce match, Julien, en 18 minutes.
Effectivement, on a, ils ont été la première équipe de l'histoire de la Première Ligue à marquer donc 5 buts en 18 minutes. Mener 5-0 après 18 minutes, c'est quand même assez incroyable. On attendait une réaction de la part de City, même s'il y avait eu le match de Ligue des Champions au Shakhtar Donetsk en milieu de semaine, où ils avaient déjà très bien joué, ils avaient maîtrisé sans aucun problème la rencontre et gagné tranquillement. On attendait de les voir en championnat à domicile contre une équipe de Watford qui vient de changer d'entraîneur, mais qui a quand même, on l'a vu contre Arsenal le week-end dernier, quelques ressources. Et sincèrement, depuis l'arrivée de Pep Guardiola, je pense que c'est facilement la meilleure performance, ou en tout cas dans les trois meilleures performances de cette équipe de Manchester City. Ils ont été incroyables, sincèrement, du début à la fin, dans le mouvement, dans le jeu avec ballon, dans les dédoublements de passes, dans les jeux en triangle, dans les diagonales, dans tout ce que tu veux, dans les inspirations de Kevin De Bruyne qui a été exceptionnel, même oui, s'il il a marqué finalement qu'un but et deux passes d'aise, mais c'était une masterclass.
Apparemment, c'est masterclass, ouais.
Ah, c'était incroyable, sincèrement. À chaque fois qu'il touchait le ballon, il se passait quelque chose. La qualité des centres, tu sais, ces centres fouettés là de l'intérieur du pied qui brosse et qui met exactement entre le gardien et le dernier défenseur qui est face à son but déjà, qui est face à son gardien, c'est incroyable. À chaque fois, c'est au millimètre. Et puis après, comme tu l'as dit, hein, le premier hat-trick de sa carrière pour Bernardo Silva, qui fait un match lui aussi incroyable. Mais tout le monde était au diapason. Benjamin Mendy a joué 45 minutes.
Il a été comment?
C'était très bien pour lui. Il a été plutôt bon, même si à un moment, la seule occasion que Watford a, c'est à 1-0. Et c'est une mauvaise passe de Mendy dans l'axe, plus ou moins, on va dire, qui part en contre-attaque après pour Watford, et Deulofeu peut marquer. Il peut égaliser. Ça n'a rien changé, mais c'est vrai que c'est seul un petit bémol de la performance de Mendy. Sinon, il a plutôt été entreprenant. Il a joué assez haut sur son côté gauche.
Il a amené à reprendre sa place ou pas?
Il part avec un petit peu de retard sur Zinchenko, qui a été, quand même été solide à ce poste-là. Pour Guardiola, et je pense que Guardiola oubliera pas ça, mais ça donne une option supplémentaire à Guardiola, et tu as quand même vu hier que si elle revient à son meilleur niveau, au niveau de la puissance qu'il peut dégager par rapport à Zinchenko par exemple, et même dans la qualité des centres et les appels qu'il peut faire, etc., ça peut quand même être un bon bonus pour cette équipe de City jusqu'à la fin de la saison s'il reste fit.
Claude Puel était l'invité de PL Zone, notre émission de Première Ligue sur RMC Sport 1. Bon, il a été dithyrambique vis-à-vis de Bruyne. Pour lui, c'est Ballon d'Or. Il doit être Ballon d'Or. Il aurait dû l'être il y a 2 ans. Le problème, il l'a pas été. Modric l'a été. Il doit être le suivant, le prochain Ballon d'Or, s'il réussit avec City, évidemment, cette saison en Ligue des Champions. Tu préfères plus De Bruyne ou Hazard, toi, Ludo?
Bon, c'est pas du tout la même chose. Hein. T'en as un qui est un maestro, et puis t'en as un qui est un courant d'air, quoi. Tu vois, Eden, il est plus dans la provocation, l'élimination. Kevin De Bruyne, il a la science du jeu, c'est l'incarnation du QI football, c'est-à-dire qu'il est dans cette lignée de joueurs qui ont déjà savent déjà ce qu'ils vont faire avant d'avoir reçu le ballon, qui jouent toujours juste, qui ont des passes que personne ne
sait faire. Soyeux, tu sais, il caresse,
mais quand tu te rends compte que t'as non seulement,
j'aime bien ça, toi, hein,
t'as De Bruyne, t'as Bernardo Silva et t'as David Silva et Mahrez dans la même équipe.
Mahrez qui fait un super début de saison, Julien, également aussi, hein.
Ouais, qui fait un bon match. Après, moi, je trouve que ce qui est intéressant chez Mahrez, c'est que c'est finalement, en tout cas pour moi, c'est pas du tout un joueur que Guardiola aime. C'est un joueur qui reste quand même, malgré tout, assez individualiste.
C'est un joueur
encore aujourd'hui. C'est un joueur d'instinct, mais c'est pas vraiment les joueurs à Guardiola. Guardiola, il aime que tout soit planifié, que tout soit programmé, que tu joues d'une certaine manière, que t'aies tu vois, dans ton système de jeu, que t'aies la circulation de balles d'une certaine façon, et Mahrez, c'est pas ça. Mahrez, comme tu dis, c'est à l'instinct. Il y va, et lui, à faire un crochet, deux passements de jambes. Après, le reste, si t'avais un mec qui était un peu libre ou pas, lui, il s'en fout un peu, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, et je pense que c'est ça qu'aime aussi Guardiola chez Mahrez, c'est qu'il lui apporte quelque chose d'un petit peu différent, un peu de folie parfois, et ça fait du bien dans le...
Ouais. Et il est discipliné, vois, dans l'état d'esprit aussi, quand même.
Guardiola,
Julien, il est quand même assez discipliné sur ses replis défensivement, et c'est quand même sérieux, quoi.
Ok.
Ouais, ça dépend des matchs, quoi.
Merci, Julien. Excellente soirée à toi.
Merci à vous. Et juste, j'attends juste pour finir. Vas-y. Parce que demain, c'est assez incroyable la journée qu'on a. On a 4 matchs à Londres.
Ah oui.
4 matchs de première ligue, tous à Londres. Chelsea Liverpool surtout, mais on a un match à Crystal Palace, un match à West Ham et un match à Arsenal aussi. Seule ville au monde, bien sûr, hein, qui peut avoir 4 matchs la même journée.
Et Buenos Aires
dans une division, oui, avec peut-être Buenos Aires. Allez, Buenos Aires. Merci. Seule équipe en Europe.
Merci Julien, excellente soirée à toi. Polo Breitner est avec nous. Salut Polo.
Bonsoir messieurs.
Salut, salut Polo. Ouais, grosse journée également en Bundesliga. Le 4-0 du Bayern. Moi, ce qui m'interpelle, c'est Lewandowski. Doublé ouais, encore une
en
fois.
En fait, c'est assez intéressant parce qu'on a eu vraiment pour la première fois peut-être de la saison un Bayern qui a été conquérant et qui monte en puissance. Kovac a procédé en fait à un léger turnover après être resté, on peut le dire quand même très clairement, un petit peu sur notre fin par rapport à la victoire en Ligue des Champions contre l'Étoile Rouge. Cette fois, c'est Coman et Thiago Alcantara qui se retrouvent sur le banc. T'as Gnabry et Boateng qui rentrent. T'as trois Français titulaires au départ contre un Cologne qui était supposé en mode défensif puisque Anthony Modeste, le Français, était aussi sur le banc, mais qui va craquer dès la deuxième minute avec un nouveau festival d'un petit Polonais, mon cher Ludo, qui est il est légèrement inconnu. Hein, il s'appelle Lewandowski.
C'est quoi ses stats, ouais?
C'est 9 buts en 5 rencontres de Bouli depuis l'ouverture du championnat. Mais il faut dire qu'il est très bien assisté par un certain Allemand qui s'appelle Joshua Kimmich, qui a été repositionné par Niko Kovac, notamment au milieu défensif. Mais il fait tout parce qu'il devient monumental par son volume de jeu. Et je crois que c'est assez intéressant ce qui se passe. C'est-à-dire que ce 4-0 est quand même la prestation la plus évoluée. Donc je sais bien que Cologne monte de seconde division. Sauf que tout le monde oublie que Cologne a réalisé 115 millions de chiffres d'affaires en seconde division l'année dernière. Donc c'est pas neutre, si vous voulez, cette victoire.
Et Coutinho aussi a marqué. Et enfin, ça y est, premier but.
Alors oui, c'est intéressant parce que Lewandowski, en fait, lui a laissé la place pour le pénalty. Et Coutinho, qui a dû d'ailleurs retirer son pénalty parce qu'il y avait des petites fautes, on va dire, les joueurs rentrent un peu facilement dans la surface de réparation. Il a marqué son premier but. Je reste encore un petit peu sceptique sur Coutinho parce que je trouve qu'il tricote un petit peu trop par rapport à une équipe, on va dire, allemande. Et puis surtout, je prévois une petite polémique qui va arriver puisqu'un Thomas Müller est toujours sur le banc alors qu'il est très très bon depuis le début de saison. Donc, Niko Kovac a très bien clarifié la situation en disant que Müller plus Coutinho c'était trop offensif pour le Bayern Munich, mais on va dire qu'on va prévoir peut-être quelques petites discussions dans les prochaines semaines.
Et juste Cuisance, comment il est rentré? Tu l'as trouvé comment?
Ouais, c'est le match est joué parce qu'à partir de l'heure de jeu en fait, Yves-Eboué est expulsé du côté de Cologne, donc c'est si tu veux, moi, le problème de Cuisance, c'est qu'il se plaignait de pas avoir tant de jeux à Mönchengladbach. Je le vois pas beaucoup en avoir à Munich. Donc, il est rentré, c'est bien. Il commence à s'intégrer dans le groupe. Maintenant, il y a rien d'exceptionnel pour l'instant. Et encore une fois, le match était joué. Donc, c'est pas vraiment. Je sais pas si cette performance, en fait, est liée à un Bayern qui augmente vraiment son volume de jeu ou si c'est Cologne qui a tout simplement explosé.
Quoi. Et Lucas a joué à gauche.
Lucas a joué à gauche évidemment parce qu'Alaba est blessé, donc ça permet encore une fois à Pavard de jouer. Moi qui disais qu'il allait être remplaçant toute la saison, en fait le turnover instauré depuis le début de saison depuis Niko Kovac permet à Pavard d'en profiter, d'autant plus qu'il a fait remonter encore une fois Joshua Kimmich au milieu de terrain. Maintenant j'attends encore quelques semaines pour voir le véritable 11 titulaire. Là je pense que, n'oublions pas, le groupe du Bayern n'est pas extensible. Il y a en plus 2 blessés, Goretzka qui va revenir à l'allemand et Joshua Alaba qui est blessé pour l'instant. Donc ça permet à donner du temps de jeu à différentes personnes, dont Tolisso. Mais donc c'est bien. Ça permet aussi de préparer différentes possibilités techniquement parlant et tactiquement. Maintenant, nous nous emballons pas sur ces Français qui sont titulaires pour l'instant. À part Coman et Lucas Hernandez, je ne vois pas Pavard et Tolisso forcément titulaires.
Devenir des cadres au Bayern.
Cette saison.
Bon, la prochaine fois, on parlera du RB Leipzig hein, qui ne lâche rien, toujours en tête. Victoire 3-0 sur la pelouse Werder Bremen. Ça devient très intéressant, le RB Leipzig qui s'est baladé également en Ligue des Champions. Toujours devant le Bayern Munich. C'est ton pote.
Exactement.
Ou pas,
juste une petite info. Upamecano, titulaire pour la première fois qui revient de blessure. Les Français de Leipzig, les petits jeunes, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Ah, Upamecano, c'est un joueur.
Une note sur 10 sur Lewandowski en camarade de vestiaire, Ludo.
5
sur 10, ok. Merci Polo.
Salut les gars.
Merci les gars. Ludo. Merci Jonathan. Excellente soirée à vous. L'after revient demain avec Gilbert Brébois, bien sûr. Daniel Riolo, excellente soirée à tous. Merci à Arthur Robert et à Fernando Agnino Torres en régie.
Ciao.
RMC. L'after foot.
Hello, Sunil Patel here. This is a set performed by me at the Cavendish Comedy Club in London.
Hello. So I get the idea of saving as well. You're supposed to like make good decisions now for your future self, but like I just don't think that guy deserves it. Like, what's he done for that? He hasn't earned that money. I've earned that money. He's done nothing for it. I've earned that money, so I'm going to keep it because I like nice things.
Well, here's a message from your future self. It's easier to save if you do it the day you're paid. Payday Save Day. Building a society of savers. nationwide.